Question d'islam par Al Ben Sheikh. Aujourd'hui, nous parlons de sexualité et spiritualité avec la sexologue et clinicienne Nadia Albouga. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue. Merci de venir nous édifier par vos propos et aussi nous dire le résultat de votre expérience comme sexologue et aussi ce que vous avez glané, si je puis dire, comme fruit de consultation dans votre cabinet. Vous avez un cabinet dans le Val d'Oise, en Île-de-France. Et à vrai dire, si je vous ai demandé de venir, c'est pour répondre à quelques demandes de nos amis auditeurs qui, suite à une première émission avec un de vos confrères, nous n'avons pas abordé, m'a-t-on fait savoir, la sexualité féminine. Et je m'étais dit, il n'y a pas mieux que de faire appel à une sexologue d'expérience comme vous, chère Nadia Albouga. Merci d'avoir accédé à cette demande. Mais avant tout, allier à la fois les rapports charnels, le plaisir, la jouissance et l'élévation spirituelle, de ce point de vue-là, il y a un énorme malentendu ou une méprise à propos des traditions religieuses et a fortiori en ce qui concerne la tradition religieuse islamique.
Alors oui, tout à fait. J'aime, et je commencerai par ça puisque je pense que ça résume pas mal l'idée que l'on se fait de la sexualité pour le coup dans les mondes musulmans, mais dans le monde... j'allais dire au sens large. C'est une citation d'un de mes maîtres en sexologie qui disait « La sexualité est parfaitement naturelle, mais elle n'est pas naturellement parfaite ». Ceci étant dit, on a déjà le tableau, j'allais dire, qui est brossé. Effectivement, il y a dans le monde arabe, le monde arabo-musulman ou les mondes arabo-musulmans, il y a eu en fait une perception de la sexualité qui s'est malheureusement dégradée avec le temps. Mais pour ne pas essentialiser, pour ne pas justement risquer d'essentialiser, je dirais que c'est un phénomène qui touche malheureusement le monde dans sa globalité. Si je prends l'exemple, nous sommes français, si je prends l'exemple en France, depuis la révolution sexuelle qui a eu lieu maintenant il y a une cinquantaine d'années et qui nous a fait beaucoup de bien, on constate tout de même que la sexualité s'est malheureusement cantonnée uniquement au corps et à la mécanisation du corps. Et pour le coup, on a vidé la sexualité de son sens.
Oui. Nadia Albouga, je vous écoute avec beaucoup d'intérêt et j'ai été frappé par ce mot. Ça s'est dégradé, ce qui sous-entend qu'à travers l'histoire, ces questions ne se posaient pas avec cette acuité et j'ai cru comprendre qu'on considérait à un moment donné de la civilisation islamique que les femmes musulmanes paraissaient un peu dissolues dans leur comportement au regard de leur... les compatriotes peut-être juives ou chrétiennes à ce moment-là.
Oui, tout à fait. Si on remonte à l'époque du prophète, on le sait bien avec certains hadiths et certains récits que les questions qui portaient sur la sexualité, notamment les positions sexuelles, étaient discutées très librement. C'est-à-dire, pour citer un exemple, à l'époque de l'Égir, il y avait des pratiques sexuelles qui étaient différentes à la Mecque et à Médine. Et donc à cette époque-là, lorsqu'il y a eu l'émigration des Mécois vers Médine, une pratique sexuelle était exercée à la Mecque qui n'était pas exercée à Médine, ce qu'on appelle de nos jours la levrette, c'est-à-dire des rapports sexuels où le compagnon se met derrière sa compagne. Lorsqu'il y a eu donc des mariages qui se sont constitués entre Médinois et entre Mécois et Médinoises, ceci a posé un problème puisqu'il y avait une croyance à Médine notamment que cette position-là pouvait générer un strabisme chez l'enfant issu de cette relation-là. Eh bien, pourquoi je cite cette histoire-là ? À l'époque, les femmes n'avaient absolument pas n'étaient pas dans la pudibonderie, n'étaient pas dans la pruderie. Elles ont été questionnées, le prophète, sur la légalité, si je peux dire ça comme ça, de cette position, la légitimité d'avoir cette position-là lors du rapport sexuel. C'est une chose qu'on peut difficilement imaginer à notre époque. C'est-à-dire que les femmes, et là pour le coup on parle de la sexualité féminine, des femmes qui iraient questionner un ouléma, un savant,
un imam quelconque,
exactement, sur des positions sexuelles ou sur un quelconque protocole sexuel est devenu quelque chose d'inconcevable ou de mal placé.
Oui.
Alors que la sexualité, par la suite, hein, et notamment à l'époque des Lumières, de l'islam des Lumières, était quelque chose qui faisait partie intégrante de la vie. On retrouve dans les textes l'éloge de la sexualité, l'éloge du plaisir. Ce n'était pas quelque chose qui était réprouvé. Et enfin, moi, ce que je signale notamment dans mon livre, c'est que malheureusement, cette vision de la sexualité qui est certes plus épanouie que celle que l'on rencontre à notre époque, malheureusement est uniquement une vision masculine de la sexualité. C'est-à-dire que les textes nous racontent une sexualité. Alors, je ne dirais pas que c'est mal, puisque au contraire, la parole est libérée sur la question, était libérée sur la question. En revanche, c'est un érotisme, c'est une sexualité qui est décrite par les hommes et vécue par des hommes et des femmes, certes, mais vue sous le prisme de la sexualité masculine et non féminine. Donc, dire que les femmes étaient effarouchées, c'est ce qui transparaît dans les textes. En revanche, moi, en tant que sexologue clinicienne du XXIe siècle, pour moi, il aurait été intéressant d'avoir des textes écrits par des femmes qui décrivent justement la sexualité féminine, l'érotisme féminin, la volupté de cette sexualité féminine.
Je vous écoute toujours avec grand intérêt. Dans ma question, en parlant de ces femmes qui paraissaient à l'aise et libérées dans mon esprit, c'était à un moment où l'apogée civilisationnelle islamique était considérée. Vous avez bien fait de remonter jusqu'au proto-islam, jusqu'à l'époque du vivant même du prophète, pour dire que parler, deviser, discuter de ces questions-là était on ne peut plus naturel, alors que dans mon esprit, c'était parler de Tashkent, de Bukhara, de Samarkand, de ces grandes métropoles, du raffinement, de l'émerveillement, du plaisir, de la jouissance, de ce qui se passait aussi dans les jardins. Et donc, les ébats amoureux n'étaient pas cantonnés exclusivement, j'allais dire, à la chambre nuptiale, qui elle-même était considérée comme un sanctuaire, et que l'acte charnel était aussi un acte de piété. Comment expliquez-vous, avant de poursuivre ensemble Nadia Albouga, cette dégradation ou cette régression tragique et qu'on en arrive à cette pudibonderie affectée?
Alors, c'est une très bonne question, effectivement, parce que bon, c'est multifactoriel. Certains vous diront que il y a un effet de la colonisation, donc d'autres vous diront que il y a le dogmatisme qui est passé par là et qui a fait de grands dégâts. Moi, je pense tout simplement que on a perdu le sens de la sexualité, le sens profond de la sexualité. C'est-à-dire, tout simplement, nous n'avons plus fait rimer sexualité et spiritualité. nous nous sommes arrêtés à ce que je disais en prélude, la mécanisation des corps, c'est-à-dire la mécanique corporelle, uniquement le fonctionnement. Alors oui, le plaisir. Donc ça a été d'ailleurs le fruit de pas mal de révolutions, le plaisir sexuel, la reconnaissance du désir sexuel, certes, mais le plaisir pour le plaisir, on ne reste que dans le fonctionnement. Et donc du coup, on vide la sexualité de sa puissance transcendantale. Et à mon sens, dans les mondes arabo-musulmans, c'est ce qu'on a perdu. Et autre chose, on a aussi, à travers la diabolisation du corps de la femme, contribué à enfermer la sexualité dans une mécanique, j'allais dire, purement masculine. C'est-à-dire que finalement, l'homme s'est enfermé lui-même avec le pénis transformé en phallus. C'est finalement enfermé dans une attitude comme ça de domination, de contrôle de la sexualité de la femme, et au final tout le monde y a été perdant. Donc à mon sens, remettre du sens, c'est le cas de le dire, dans la sexualité, et notamment là je parle pour le coup en tant que croyante, et recréer le lien entre la sexualité et le divin, dans l'islam, tout le monde a y gagné. Parce que cette sexualité, à la base, elle a une vocation d'adoration, et ça, je constate que ça a été éludé, voire même oublié. C'est-à-dire que on a, et c'est une bonne chose, détaché la sexualité de la procréation. Et on a remis le plaisir et le désir au centre de la sexualité. C'est très bien. En revanche, s'arrêter à ça, eh bien, c'est laisser la place uniquement à ce qu'on appelle dans le jargon sexologique l'orgaste, c'est-à-dire uniquement une décharge des pulsions sexuelles, alors que ce qui est plus transcendant, c'est justement l'orgasme, c'est-à-dire cette énergie sexuelle qui vous englobe et qui crée le lien entre le corps et l'esprit. Et c'est en ça que la sexualité, à mon sens, devient intéressante. Et elle humanise, c'est là où elle humanise, c'est-à-dire que vous considérez, quand vous êtes dans cette démarche-là, vous considérez l'autre comme sujet. Alors l'autre, homme ou femme, vous le considérez comme sujet et non pas comme objet. Alors que dans une sexualité qui du coup perd de son sens et qui n'est que mécanique, l'autre est objet. Il est objet de désir, objet de plaisir, et du coup on s'éloigne de cette spiritualité. Alors quand je parle de spiritualité, je ne parle pas de religieux. Qu'on soit bien clair, quelle que soit la croyance que l'on puisse avoir, même pour une personne d'ailleurs qui n'a pas d'appartenance religieuse, on peut tout à fait vivre la sexualité avec une très profonde spiritualité.
Vous faites rimer, à juste raison, c'est le titre même de notre émission, sexualité avec spiritualité, et j'ai compris que, en tout cas au moins dans la tradition religieuse islamique, les rapports charnels n'ont pas comme vocation la procréation, au contraire. Et pour revenir à ma question tout à l'heure sur cette régression tragique, d'aucuns disent, je voulais avoir simplement votre avis, que parce que le moment Freud n'ayant pas eu lieu en contexte islamique, cette pudibonderie s'est encore aggravée en quelque sorte au début des années 20 du siècle écoulé. Et puis c'est parti comme ça parce qu'il y a tout un discours plutôt radical, notamment pour utiliser le terme de nos jours chez les salafistes, qui ont fait une focalisation quasi maladive alors que ça ne le mérite pas.
Oui, une focalisation sur
sur ces, de corps féminin,
ah oui,
ou sur
oui.
ces questions de rapport charnel, alors qu'en réalité, il faut les aborder avec beaucoup de détachement et beaucoup plutôt de joie, parce qu'il y a de la jouissance et ce n'est absolument pas antinomique avec l'élévation spirituelle.
Exactement, exactement. C'est pour ça d'ailleurs que je parlais de la place des femmes, effectivement, dans cette histoire, puisque si certaines obédiences radicales, extrémistes du monde musulman se sont appropriées la question sexuelle et l'ont tabouifiée, si je peux dire ça comme ça, c'est à travers le prisme effectivement du corps des femmes, c'est-à-dire que on a diabolisé la femme, hein, la femme est la source de tous les maux, hein, pour ces gens-là, elle est le mal incarné ou réincarné, et malheureusement, effectivement, on a abouti à, je dirais, plus que, et même pire que de la simple pudibonderie ou pruderie, hein, c'est on en est dans une situation qui est quand même gravissime, puisque certaines femmes en pâtissent et dans leur chair et dans leur âme.
Donc, et dans leur psychologie aussi.
Exactement, et dans leur psychisme, tout à fait. Donc ces personnes-là, alors je ne vais pas faire de la psychanalyse de comptoir, mais ces personnes-là devraient se questionner sur leur propre sexualité, parce que finalement, ils ne vivent pas leur sexualité eux-mêmes comme sujet. Ils font un transfert sur le... Ce sont des craintes, des peurs qui émanent de ces personnes-là, des projections négatives qui les empêchent justement de libérer et leur corps et leur esprit pour vivre cette sexualité comme un élément épanouissant, un élément transcendant et donc spirituel. Tout le monde y perd dans cette histoire, parce que on a tout à gagner, et l'homme également, à considérer justement sa partenaire, si nous sommes dans le cadre d'une sexualité, d'une hétérosexualité, à considérer sa partenaire justement comme un moyen de pouvoir s'élever. Alors si la sexualité est comprise comme, je mets le terme entre guillemets, comme un outil spirituel, alors...
Ou un moyen.
Un moyen, tout à fait, spirituel. Effectivement, je ne vis pas, du coup, la sexualité de l'autre ou la sexualité ou le corps de l'autre comme un danger, mais plutôt comme une voie. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les étapes du développement du couple. Il y a donc le premier stade que l'on connaît, qui est celui de la fusion. Donc, c'est le stade dit de la lune de miel, où 1 plus 1 égale 1, où nous sommes, voilà, où nous
dans
formons...
Dans l'ivresse d'un nous fusionnel.
Exactement, dans cet amour passionnel. Lorsque l'on passe à l'étape 2, qui est une étape, on va dire, de la lutte des pouvoirs psychiques, hein, au niveau du couple, là, on n'est plus dans la première étape où nous sommes dans le rêve de l'autre, où nous idéalisons l'autre. Dans l'étape 2, nous donnons un petit peu plus de place à la réalité de l'autre, c'est-à-dire ce que mon partenaire ou ma partenaire est réellement. Eh bien, à ce stade-là, et vous comprenez pourquoi j'utilise justement ces différentes étapes pour comprendre la notion spirituelle de la sexualité, à cette étape-là, en règle générale, sur le terrain, en tant que sexologue, on constate que les divorces ont lieu à cette étape, à l'étape 2. Il y a 5 étapes du couple. Donc à cette étape-là, si nous n'avons pas fait un travail sur soi, eh bien, nous entrons en confrontation avec notre autre, et tous les maux qui apparaissent, alors que ce soit les troubles sexuels ou bien le dysfonctionnement conjugal, révèlent en réalité notre propre mal-être. Mais si nous n'effectuons pas un travail sur nous-mêmes, eh bien, nous allons projeter ce mal-être sur l'autre. Eh bien, la sexualité, à ce moment-là, si elle est vécue, si elle est imprégnée de spiritualité, eh bien, elle nous invite, lors de cette étape, justement, à remettre les projecteurs sur nous et ne pas les focaliser sur l'autre, et prendre conscience qu'en réalité l'autre dans la relation, et notamment là la relation sexuelle, nous permet de nous changer. Ce que l'on retrouve sur le terrain, ce n'est pas ça, c'est on cherche à changer l'autre. Ce qui fait que on se retrouve bloqué dans cette fameuse sexualité mécanique, puisque finalement c'est la course effrénée au plaisir pour le plaisir, et pas un plaisir qui va aller vraiment nous changer intérieurement
et nous épanouir. Dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de sexualité et spiritualité avec Nadia Aldouga, sexologue, clinicienne. Vous avez composé un ouvrage intitulé La sexualité dévoilée chez Grasset. Dévoilée, alors, nous parlions tout à l'heure des salafistes, pour ne citer que cela, il y en a d'autres aussi. Pour eux, le fait de voiler les femmes, c'est pour les dérober à leur regard, parce qu'ils n'assument pas le fait de voir un être humain érotisé et assumer cette sensualité qui est on ne peut plus naturelle.
Oui, effectivement, il y a l'utilisation du voile dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller cacher ce corps que je ne saurais voir,
qui me tente
et qui me met face à mes propres démons, si je peux dire ça comme ça, parce que je ne suis pas maître de mes pulsions. C'est mes pulsions m'habitent et elles me dépassent, elles me submergent, et je n'arrive pas à maîtriser tout cela. Alors là, vous me tendez une perche, parce que à mon sens, justement, c'est ces personnes qui d'ailleurs ne reconnaissent absolument pas l'éducation et la nécessité de l'éducation à la sexualité et à l'affectivité, parce que pour eux, l'éducation à la sexualité, c'est une incitation au passage à l'acte, alors que d'ailleurs des études très sérieuses ont démontré que, notamment en Angleterre, des chercheurs d'université anglaise ont démontré que plus tôt est effectuée l'éducation à la sexualité et à l'affectivité, et plus les jeunes retardent leur première relation sexuelle, c'est-à-dire et là on n'est pas dans des considérations de péché ou autre, on est tout simplement dans une considération qui me semble moi en tant que sexologue intéressante, c'est-à-dire que ces jeunes se questionnent plus sérieusement sur l'importance que représentait leur corps, l'importance que peut représenter la relation à l'autre, le sentiment amoureux naissant. Et donc ces gens que vous citez justement, ces fondamentalistes, n'ont pas compris justement que l'éducation à la sexualité permettrait, et pour eux les premiers en le bénéficieraient d'ailleurs, leur permettrait justement de pouvoir maîtriser, de pouvoir comprendre leurs pulsions sexuelles et qu'elles et les mettre ces pulsions sexuelles à leur service et non pas être perpétuellement en confrontation, parce qu'en réalité, ce qui pose problème, ce n'est pas le corps des femmes, ce qui pose problème, c'est la représentation qu'ils ont, eux, du corps de la femme.
Oui. Nadia El-Bouga, vous avez évoqué 5 étapes dans la construction du couple ou dans sa vie. Vous avez dit un couple hétérosexuel, nous aurions peut-être à dire un mot tout à l'heure. Et c'était aussi une question d'une ou d'un auditeur. L'auditrice a parlé davantage de la virginité chez les filles. Nous y reviendrons. Vous nous avez parlé de 2 étapes. Il en reste, si je compte bien, 3 autres.
Oui, tout à fait.
Et qui sont...
Alors, quand on a passé l'étape 2, qui est justement cette étape de la lutte des pouvoirs, qui est vraiment une étape fondamentale, parce que là, pour le coup, le couple y survit. Si, et c'est vraiment, s'il y a un message à faire passer, en tout cas dans les mondes arabo-musulmans, c'est celui-ci, c'est-à-dire, il y a une prise de conscience, je le vois sur le terrain, faites un travail sur vous-même. C'est-à-dire, avant de... Je me permets une petite digression.
Ah, mais je vous en prie.
Oui, concernant justement la problématique du célibat. Alors, on focalise sur le mariage des jeunes, sur la problématique du célibat et les gens qui seraient dans une extrême frustration.
Et une misère.
Et une misère sexuelle. Je vous assure que sur le terrain, je m'aperçois, sur le terrain clinique, je m'aperçois qu'il y a beaucoup plus de frustration conjugale que de frustration dans le célibat. C'est-à-dire que les couples, et on est en plein dans la deuxième étape que je décris, les couples se retrouvent avec une sexualité, je ne peux pas dire misérable, mais vraiment très appauvrie. On attend de l'autre absolument tout, alors que... l'autre est un catalyseur, c'est-à-dire que le travail se fait en nous-mêmes et l'autre est là pour catalyser, comme dans une réaction chimique, ce que l'on a planté en nous-mêmes. Donc du coup, si on survit à cette étape 2, et c'est le cas de beaucoup de couples quand même, on arrive,
et heureusement,
nous arrivons donc à la troisième étape, qui est une phase dite de stabilisation, où là naît l'amour vrai, l'amour véritable, puisque avant nous n'étions que dans la passion. Alors la passion, elle est nécessaire, cette passion, parce que c'est cette passion amoureuse qui va générer l'attachement. Et on le sait, biochimiquement, on sécrète à ce moment-là cette fameuse hormone de l'attachement qui est l'ocytocine. Donc c'est une période qui est nécessaire. Mais on ne peut pas indéfiniment rester dans cette période-là. On le sait scientifiquement. À un moment donné, il y a une saturation des récepteurs chimiques et vous arrivez à un moment donné, c'est ce qui fait que vous voyez la réalité de l'autre et vous n'êtes plus que dans le rêve de l'autre, vous arrivez en fait à un stade, qui est l'étape 3, où là, vous acceptez l'autre tel qu'il est. Vous n'êtes plus dans cette obsession de vouloir changer l'autre et de vouloir lui imposer votre conception à vous, également de la sexualité. Vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'échange. Et là, le « je t'aime » carnivore de la première étape fusionnelle devient un « je nous aime », c'est-à-dire « j'aime ce que nous devenons ensemble ». Et là, on commence à toucher justement à cette spiritualité. Alors qu'à l'étape 2, c'était un « je t'aime, je te hais ». Donc, à cette étape, on commence à toucher du bout des doigts cette spiritualité conjugale, ce début de transformation intérieure qui fait que on commence ensemble à co-construire quelque chose qui devient intéressant. Et c'est là où les couples, sur le plan affectif et sexuel, vont chercher à créer. Ce sont des couples qui commencent à être créatifs à ce moment-là.
Et alors, enfin, oui. Sauf si vous allez poursuivre pour l'étape 4.
Et alors, du coup, nous passons à l'étape 4, où là, les deux membres du couple, en fait, vont s'appuyer ensemble pour vraiment éclore. C'est-à-dire que là, il y a eh bien, tout ce qui était caché en vous parce que vous étiez chargé avec vos bagages, le bagage de votre vécu infantil, familial, voilà, votre histoire. Eh bien, à l'étape 4, ce bagage s'est considérablement allégé. Et là, vous êtes vraiment dans un respect mutuel. On n'est plus du tout dans une confrontation, dans une recherche de pouvoir au sein du couple. Nous sommes là dans un rythme de croisière qui nous amène à parfaire justement cette créativité. Et ce que je dis là rejoint parfaitement ce que vous disiez tout à l'heure au moment de l'apogée de l'islam des Lumières. À mon sens, nous étions à cette époque dans cette évolution au sein des couples. C'est-à-dire que la sexualité n'est plus tabou. Vous allez créer, vous allez inventer, vous allez... comment dirais-je ? Si je prends l'exemple culinaire, c'est dire qu'on n'est plus dans la malbouffe, si vous voulez, pour utiliser les termes actuels.
On est quoi ? On est dans la gastronomie et l'art culinaire ?
Exactement, voilà, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous prenez vraiment le temps. Alors là, pour le coup, on est dans quelque chose de très sensuel, de très voluptueux, de très lent. Donc, loin des injonctions actuelles de performance, de rapidité, de... quelque chose qui serait de l'ordre de je me prouve que je suis un homme et je me prouve que je suis une femme. Non, je n'ai rien à prouver à ce moment-là, je vis simplement.
Il y a aussi place à la tendresse.
Exactement, et c'est fondamental parce que lorsque l'on vit la sexualité comme cela, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, il faut savoir que le bénéficiaire tout de même de cette sexualité-là, les bénéficiaires sont bien sûr l'homme et la femme. L'homme, parce que, eh bien, il sort de cette injonction de performance dans laquelle on l'a enfermé de nos jours, où il s'est enfermé, d'ailleurs, j'ai envie de dire lui-même, de nos jours, où il faut absolument avoir une érection parfaite, pouvoir démontrer que je suis un homme à travers cette érection-là, eh bien, c'est oublier que l'homme n'a pas uniquement comme zone érogène sa zone génitale, son pénis, hein, pour le nommer, mais c'est tout son corps. À ce stade-là, justement, du couple, eh bien, l'homme apprend à érotiser l'ensemble de son corps, c'est-à-dire que son énergie sexuelle ne reste pas focalisée sur son pénis, mais elle va vraiment diffuser au niveau corporel. Et pour la femme, eh bien, n'en déplaise à nos salafistes, elle va justement apprendre à érotiser. Pour le coup, elle aura un processus inverse, puisque la femme a plutôt tendance pour certaines, à érotiser le reste du corps et à désinvestir la génitalité, donc le vagin. Eh bien là, elle apprend à érotiser son vagin. Donc son vagin devient vraiment un lieu d'accueil et pas uniquement le réceptacle du mari.
Et à ce sujet, les pratiques telles que l'amour bucogénital, etc., n'est plus sous la chape d'une quelconque culpabilité ou un regard comme ça qui ne serait pas conforme à ce que Dieu veut.
Oui, nos experts savants, imams, qui se proclament sexologues pour certains, qui nous pondent des interdits que l'on trouve dans aucun texte scripturaire ou autre, oui. On évacue effectivement toute cette culpabilité qui n'est en rien justifiée en islam. C'est-à-dire que toutes les pratiques sexuelles sont autorisées en islam, si ce n'est dans le corpus, on va dire, scientifique musulman, il y a deux interdits. Il y a la pénétration lors des menstrues et la pénétration anale, qui est encore même discutable, puisque nos frères chiites ne l'interdisent pas. Donc effectivement, au-delà de ces considérations techniques, oui, Oui, le corps.
Et le premier interdit, ça relève d'une vision de pureté, purification ou quelque chose qui se justifie objectivement.
Alors, vous voulez dire qu'il se justifie sexologiquement, scientifiquement?
Non. Pourquoi est-ce que c'est interdit au moment où la femme est indisposée?
Alors, oui, pour le coup, là, c'est effectivement un grand débat parce que il y a cette période menstruelle qui est considérée par certains comme une période d'impureté de la femme. Alors, c'est un raccourci très...
très hâtif et simple parce que le corps féminin n'a pas à être considéré comme souillé ou impur.
Exactement, exactement, tout à fait. D'autant plus lorsqu'on connaît le fonctionnement du corps de la femme, on comprend très vite que ces règles ne sont absolument pas une impureté, mais bien au contraire, le résultat d'un mécanisme juste magnifique qui est la préparation utérine de l'accueil d'un éventuel embryon. Donc il n'y a rien d'impur à cela quand on sait que dans le texte coranique, la description qui est faite justement de la vie dans certains versets. Donc oui, alors cette interdiction, en tant que sexologue, l'explication qui me semble plausible en tout cas, parce que je ne suis pas théologienne, c'est que ce sang qui a horrifié et terrifié beaucoup d'hommes et femmes depuis la nuit des temps.
Et qu'on retrouve dans le monothéisme abrahamique générale.
Oui. Tout à fait. À l'époque, ne pouvait pas être expliqué scientifiquement. Donc, c'est vrai que médicalement, alors il y a un débat, même dans le monde médical, il n'y a rien qui démontre que ce soit dangereux, si je peux dire ça comme ça.
Ou nocif, en tout cas, à la santé.
D'avoir des rapports sexuels avec pénétration au moment de cette période. D'ailleurs, il faut quand même noter que dans l'islam, et ça il faut tout de même le rappeler, la relation sexuelle n'est pas interdite pendant la période menstruelle. Parce qu'il y a eu un glissement entre l'interdiction de la pénétration lors des menstrues et l'interdiction complète d'avoir des relations sexuelles pendant la période menstruelle. Non. Alors pourquoi c'est intéressant de s'arrêter là-dessus? C'est parce qu'on a réduit la relation sexuelle à cette unique pénétration. Or, effectivement, la relation sexuelle, et d'ailleurs, vous noterez que je ne dis pas acte sexuel, eh bien, relation sexuelle, parce que on entre en lien.
C'est vrai. Parfois, je parle de rapport charnel intime, mais vous avez raison de dire relation sexuelle et n'est pas acte.
Tout à fait, parce que du coup, si on parle d'acte, alors on comprendrait justement cette interdiction et ce glissement qui a eu lieu. Hein. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore des patients qui sont dans cette croyance et il n'y a plus du tout de contact entre les époux durant cette période-là. Or, c'est faux. Nous avons justement dans l'histoire prophétique notamment, pour ne prendre que ça là, eh bien la preuve que il y avait bien une relation charnelle, une relation sexuelle possible pendant cette période-là. Et ça nous invite à nous questionner sur qu'est-ce qu'une relation sexuelle. Et c'est là où ça devient intéressant, justement à cette étape 4, puisque pour le coup, là, on explore le corps dans sa globalité. Et en explorant le corps dans sa globalité, et on le sait, on sait à quel point, que ce soit scientifiquement ou même d'ailleurs coraniquement, puisque l'un des versets, le verset qui parle du vêtement, vous êtes un vêtement pour elle.
Vous êtes une vêture pour elle et elles sont une vêture pour vous.
Tout à fait. Le terme utilisé en arabe, c'est le mubashara. C'est pas un autre terme. Et le mot bachara, si on fait l'étymologie du mot, on peut y comprendre, on peut y entendre la bonne nouvelle, mais on peut y entendre aussi le contact. Le contact.
De la peau.
De la peau, tout à fait. Donc là, on a une invitation justement à aller contacter l'autre, à aller explorer l'autre. et à aller s'explorer soi-même. Et pour le coup, ça nous laisse, ça nous élargit justement les voies du possible. Et cette sexualité-là, à ce moment-là, devient vraiment un moyen d'épanouissement. Et là, on est vraiment dans quelque chose de transcendant pour arriver à l'étape 5, qui est là, pour le coup, l'épanouissement complet, qui serait l'équivalent d'une extase conjugale, d'un orgasme conjugal dans la façon de vivre son couple. Là, je ne suis pas que dans la génitalité.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam. Aujourd'hui, nous parlons de sexualité et spiritualité avec Nadia Elbouga, sexologue, clinicienne. Vous recevez du monde et même une patientèle nombreuse dans votre cabinet en Île-de-France, dans le Val-d'Oise exactement. Et puis, vous êtes auteur d'un ouvrage intitulé « La sexualité dévoilée ». Dans cette dernière étape, si vous voulez bien, Nadia Elbouga, je me fais le porte-parole de quelques auditrices et de quelques auditeurs pour vous poser au moins trois questions. La première, c'est à propos, pas nécessairement dans l'ordre, recevez-vous là aussi des couples homosexuels, garçons ou filles, et s'adressant à vous, peut-être qu'il y a aussi un aspect spirituel, vous connaissant ou pas, je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce que vous les déculpabilisez de leur relation qui, somme toute, n'est pas comprise comme un châtiment ou une perversité ? Un châtiment divin, j'entends.
Oui, tout à fait. Bien entendu, j'accompagne des couples d'orientation homosexuelle, qu'ils soient hommes ou femmes, tout à fait. Alors, c'est très important. C'est très important de remettre les choses dans leur contexte. Je suis sexothérapeute. Donc, à ma place de sexothérapeute, je suis là pour accompagner les couples. Donc, à aucun moment, je ne me positionne en tant que juge ou critique du choix sexuel, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a débat sur cette question de choix sexuel de mes patients. Donc si j'ai un couple, et il y en a, de confession musulmane, alors plus souvent ce n'est pas le couple que je reçois, mais ce sont des personnes seules qui viennent justement consulter parce que elles vivent très mal leur homosexualité. Une homosexualité d'ailleurs qu'ils n'ont pas révélée. Mais voilà, ils se questionnent de savoir comment faire dans une famille où le dire c'est impensable pour eux, dans un contexte communautaire qui les rejette, disons les choses comme elles sont. Et bien sûr, pour le coup, à titre personnel, je m'insurge contre cela. C'est juste inadmissible en tant que musulman de rejeter qui que ce soit. Qui sommes-nous pour juger de quoi que ce soit? Je pense qu'on a fort à faire avec soi-même. Donc oui, je suis amenée à accompagner ces couples-là, et à aucun moment je ne suis là pour changer l'orientation sexuelle de mes patients. Soyons bien clairs, c'est-à-dire que une patiente ou un patient qui se présente et qui souhaite effectuer un travail sur elle ou sur lui, je le questionne d'abord. Quelle est sa motivation? Quel est le fruit de la source de sa souffrance? Est-ce que la personne se questionne sur son orientation sexuelle, et dans ce cas-là, effectivement, il y a un protocole sexologique pour aider la personne à mettre les choses au clair dans son esprit et dans son corps. Ou alors, la personne vient-elle chercher une approbation parce qu'il y a effectivement des patients qui sont dans cette posture-là. Moi, mon rôle, c'est d'accompagner ces personnes à s'épanouir sexuellement, et ce, quelle que soit leur orientation.
Alors, la deuxième question est relative au tabou de la virginité chez les jeunes demoiselles. Là aussi, il y a certaines jeunes filles qui viennent vous voir. Ça relève aussi du tabou. Quel est le fondement vous n'êtes pas théologienne, certes, théologique ou pseudo-théologique à cette pratique qui veut que la jeune fille, notamment pour ses noces, doit devenir vierge. Et ça occasionne des drames psychologiques aussi auprès de ces jeunes demoiselles.
Oui, alors effectivement, on a encore en France, au XXIe siècle, hein, là je parle du contexte dans lequel nous vivons, des patientes d'origine maghrébine qui se questionnent sur... Alors, il y a deux catégories de femmes. Il y a celles, en fait, qui se questionnent sur leur virginité et qui appréhendent, en fait, leur premier rapport sexuel, parce que cette virginité a tellement été... sublimée, exactement, qu'elle voit le rapport sexuel vraiment comme quelque chose de traumatisant. Et vous avez celles qui ont eu des rapports sexuels avant le mariage et qui sont également traumatisées parce que quid du compagnon qui va découvrir qu'elle n'a plus d'hymen, si hymen il y avait d'ailleurs, et la famille derrière, voilà, l'honneur. Alors là, par contre, oui, je me positionne scientifiquement, c'est-à-dire que j'explique tout d'abord que l'hymen n'a aucune, c'est un reliquat embryonnaire qui n'a aucune fonction, aucune utilité et sexuelle et organique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, oui, j'explique effectivement dans les textes, en fait, on a, c'est la culture qui a pris le dessus, pour le coup, sur la religion. On a donné une importance extrême à la virginité, une importance que l'on doit maintenant relativiser et rectifier. Donc, oui, j'explique à mes patientes de confession musulmane qui arrivent avec cette problématique-là. Alors, c'est tout un travail aussi, parce que ce n'est pas le tout de le dire, mais il faut également qu'elles l'acceptent et qu'elles l'intègrent, tout à fait, que finalement, elles ne sont pas et elles ne doivent pas se réduire à une membrane qui n'a à la base aucune utilité et de laquelle il faut... qu'il faut désacraliser pour
bien
le coup.
Bien sûr, et qui a été investi d'une charge symbolique au-delà de ce qu'elle mérite. Et donc, vous faites là aussi un travail considérable. Il reste peut-être une dernière question qui est à propos, toujours avec cette culpabilité, du plaisir solitaire, de l'onanisme, tout simplement de la masturbation chez les garçons et chez les filles. Là aussi, il n'y a aucune raison d'avoir cette chape de plomb dessus.
Oui, tout à fait. Alors, moi, je ne parle pas d'onanisme parce que, bon, si, pour rapidement, on sait très bien que l'histoire de donnant, il n'est absolument pas question de masturbation dans un premier temps. On sait que c'est une éjaculation en dehors du vagin de... cette veuve, la veuve de son frère. Hein,
et qui est perçue chez certains religieux comme étant une semence qui ne doit pas être, qui est déversée là où il ne faut pas.
Voilà, tout à fait. Donc je ne parle pas d'onanisme et je ne parle pas également de masturbation parce que Juste petit rappel, masturbation, c'est un terme d'ailleurs que je crois qui a été introduit par Montaigne dans ses écrits, hein, dans les essais. Masturbation, ça implique, c'est un terme d'ailleurs qui découle de manusturbation, manu, main, oui. Voilà, turbation, ce qui souille, si on peut résumer ça comme ça. C'est déjà connoté, c'est connoté moralement.
Dans
c'est
un
connoté,
cas comme dans l'autre, alors qu'est-ce serait
exactement
le mot ?
Alors, en tant que sexologue, moi j'utilise sexualité personnelle. On fait la différence entre la sexualité personnelle et la sexualité relationnelle. Dans l'éducation à la sexualité, les deux ont une importance. Alors, je réponds à votre question, puisque la sexualité personnelle n'est en rien maléfique. C'est-à-dire que c'est un processus d'ailleurs naturel chez l'enfant. Dans son développement psychosexuel, il y a un passage par la sexualité personnelle. Et d'ailleurs, dans mon anamnèse sexologique auprès de mes patients, rare, j'ai eu le cas d'une seule patiente, pour vous dire, je ne connais pas de patient qui n'a pas testé la sexualité personnelle. C'est un apprentissage, c'est quelque chose qui permet d'appréhender son corps, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, afin de pouvoir justement appréhender la relation, la sexualité relationnelle, où là on a, il y a le corps de l'autre qui vient s'impliquer. Donc, pour revenir sur le plan religieux, il n'y a absolument rien qui interdit la sexualité personnelle. Elle a été diabolisée. Pourquoi ? Les personnes qui s'autoproclament sexologues et qui ne le sont absolument pas vont vous expliquer qu'il y a un risque d'addiction et donc des gens risqueraient de se complaire dans cette pratique. Désolée de vous dire que pour arriver à une, pour réutiliser les termes communément utilisés, masturbation compulsionnelle, il y a déjà un terrain psychique particulier, c'est-à-dire que très souvent on retrouve une carence affective et sexuelle qui amène certaines personnes à une masturbation compulsive. Tout un chacun, nous ne sommes pas prédisposés à une masturbation compulsive. La sexualité personnelle peut être bien au contraire, un moyen de se découvrir, un moyen d'érotiser également son corps pour parfaire une sexualité relationnelle. Tout à fait.
J'ai compris le vocabulaire. Voilà. Merci, merci infiniment. Merci Nadia Albouga de nous avoir instruits, de nous avoir expliqués. J'espère que vos réponses satisferont les auditrices et les auditeurs qui, lors d'une émission précédente, sont restés peut-être comme ça en suspens. En tout cas, vous avez apporté des compléments de réponse. Chers amis auditeurs, tout en vous remerciant pour votre fidélité, vous retrouverez toutes les références des livres et du livre de Nadia Albouga, La sexualité dévoilée, chez l'éditeur Grasset. Et donc là aussi, les références des musiques sur le site franceculture.fr. L'attachée de production est Sylvia Favre. La prise de son est assurée aujourd'hui par Jean-Michel Bernot et la réalisation est assumée par Franck Lilin.